Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, proposée par l'équipe du Plantis à Écuyer, le coworking rural, collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Dans cette émission, vous aurez le plaisir d'écouter deux chroniques, Christelle pour parler de minéraux dans les plantes et Caroline, sommelière en vin naturel et biodynamie, pour nous parler de soins à base de plantes sur la vigne. L'émission d'aujourd'hui nous invite à remonter dans le temps jusqu'au Carbonifère, car nous partons pour deux émissions à la rencontre des plantes préhumaines, des groupes végétaux qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Écoutons leurs leçons de sagesse et leur histoire. Face aux enjeux climatiques et socio-économiques qui engendrent la chute vertigineuse de biodiversité sur notre planète, nombreux sont ceux qui s'inquiètent, s'impatientent ou encore baissent les bras, démobilisés ou fatalistes. Pour sauver la vie sur Terre, le défi est énorme. Comment changer le monde pour qu'il soit plus accueillant aux autres espèces? Devant l'ampleur de la tâche et son urgence, il est tentant de se dire « à quoi bon ?» Pourtant, si l'on regarde l'évolution climatique à l'échelle de notre planète, on observe une succession de périodes glaciaires, alternant avec des phases de réchauffement intenses, sans compter les éruptions volcaniques destructrices, les collisions avec des comètes, et j'en passe. Or, malgré toutes ces épreuves, on constate que chaque fois la vie reprend ses droits, les formes de vie s'adaptent aux nouvelles conditions, certaines disparaissent, d'autres évoluent. Bien entendu, d'aucuns vous diront que l'intensification des actions humaines, liées entre autres à la mécanisation et à l'énergie brûlée, modifie le climat à une vitesse qui ne permet pas l'adaptation des espèces. Dans notre volonté innocente de préservation de la nature, nous continuons à agir sur ce qui n'a pas besoin de nous pour s'adapter. Et si nous commencions par agir sur ce que l'on peut agir, c'est-à-dire nous-mêmes et nos comportements si impactants sur les habitats et les écosystèmes. Comme le dit joliment Cindy Sherman dans une récente interview sur son travail de photographe, « La nature regorge déjà de tant de belles choses, je ne vois pas l'intérêt de la copier. » Autrement dit, vive la nature en VO, en version originale. Pour cela, partons à la rencontre des plantes les plus anciennes sur Terre, les prêles et les fougères, et écoutons leurs messages venus des temps les plus lointains. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage extraordinaire dans le temps, à l'époque des forêts marécageuses du Carbonifère, c'est-à-dire il y a plus d'un quart de milliard d'années, une époque lointaine, sans présence humaine, puisque notre espèce est apparue il y a moins d'un million d'années. Le Carbonifère est une période géologique qui s'étend de 359 à 299 millions d'années, bien avant l'apparition des mammifères, oiseaux, plantes à fleurs et butineurs. Période dont le nom trouve son origine dans l'intense production de couches de charbon. Pourquoi parler de temps si reculé, me direz-vous? L'étude des fossiles végétaux et animaux recueillis dans les charbons nous apporte pourtant des éclairages intéressants sur l'évolution des plantes en lien avec le climat. La première partie du Carbonifère connaît un climat chaud et stable, marqué par un taux de CO2 estimé entre 0,06% et 0,09%, soit 2 à 3 fois plus élevé qu'au 19e siècle. Il est estimé aujourd'hui à 0,04%. Ce taux de CO2 exceptionnel a favorisé la croissance de la végétation terrestre, comme les fougères arborescentes, les calamites géantes de 10 mètres de haut, ancêtres de nos prêles actuels, ainsi que les premiers arbres à écorce, riches en lignine, à l'origine de nos conifères. Ce climat a permis l'installation de gigantesques forêts marécageuses, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord et l'Eurasie, forêts qui ont ainsi stocké d'énormes quantités de carbone issues de l'atmosphère. Dans la seconde partie du Carbonifère, le climat est devenu de plus en plus sec et frais, provoquant l'assèchement et l'effondrement de ses forêts pluviales et des espèces végétales qui la composaient. Ainsi se sont accumulées des couches carbonées dont la lente évolution est à l'origine du charbon, faute de champignons pour les décomposer. Charbon que les humains ont exploité ensuite dans les bassins miniers pour se chauffer. Cet effondrement brutal de la biodiversité, allié à la libération d'espaces terrestres, a permis aux espèces survivantes de s'adapter à ce nouveau contexte, avec l'apparition de pattes pour se déplacer, de poumons pour respirer hors de l'eau, et du liquide amniotique des œufs pour éviter leur dessèchement. Ainsi va la vie sur Terre et sa capacité à s'adapter aux évolutions du climat. Nous avons la chance aujourd'hui de voir des végétaux survivants de cette période, à l'instar de la prêle, le plus vieil ancêtre végétal sur Terre. Espèce fossile née au Carbonifère, la prêle est le végétal le plus ancien connu sur notre planète, rescapé des temps où la forêt luxuriante et marécageuse s'épanouissait. Plante dépourvue de fleurs, elle développe ses tiges à partir d'un rhizome vivace enfoui profondément dans le sol. Des épis rouges dressés émergent en mars. Ils sont recouverts d'organes en écusson qui dissimulent à leur face inférieure les sacs de spores, les sporanges. À maturité, les spores sont éjectées grâce à des filaments qui se détendent comme des ressorts, partant secs. Plus tard dans la saison, apparaissent les tiges stériles vertes et très ramifiées, mesurant entre 20 et 50 cm, à la silhouette élégante et touffue, que les jardiniers reconnaissent facilement et qui ont donné son nom à la plante. Le nom de genre Equisetum signifie en effet « queue de cheval », alors que dans d'autres régions, on la surnomme aussi « queue de renard » ou « queue de chèvre ». Les tiges de prêle ramifiées en verticilles se présentent comme une succession de segments emboîtés les uns dans les autres, tel un mécano végétal. Les tapis de feuillage vert pomme se répandent dans les milieux humides, comme les fossés et les bords de rivières. L'espèce la plus connue se nomme Equisetum arvensi, la prêle des champs. Il existe d'autres espèces, comme la prêle ivoirine, dont les tiges fertiles sont blanches, ou la prêle des marais, Equisetum palustré, qui préfère les sols gorgés d'eau. La gracieuse prêle des bois, Equisetum sylvaticum, apprécie quant à elle les forêts fraîches d'altitude. Chaque espèce s'est ainsi adaptée au fil des ans à des habitats spécifiques, avec une prédilection pour les milieux humides. Ce lien avec l'eau nous relie aux origines de la vie et nous rappelle son omniprésence dans nos vies, comme dans la chanson de l'eau, écrite par Nicolas Daquin et joliment interprétée par sa fille, artiste peintre, Leïla Daquin, que je vous invite à écouter maintenant.
Écoutez la chanson de l'eau. Quand elle nous vient de tout là-haut, la chanson de l'eau, la chanson de l'eau, qu'elle soit de larmes et de sanglots, qu'elle soit torrent ou bien ruisseau, qu'elle soit déluge ou renouveau. Goutte à goutte, tu t'en doutes, tout s'éclate. En plus fine, la maligne nous fait des flaques. Qu'elle vienne diluvienne, pleine d'orage. Qu'elle abonde, nous inonde, c'est le naufrage. Qu'elle irrigue la garrigue, c'est la sontave. Qu'elle abreuve ceux qui veulent jusqu'à plus soif. Écoutez la chanson de l'eau. Quand elle nous vient de tout là-haut. La chanson de l'eau. la chanson de l'eau, qu'elle soit de larmes et de sanglots, qu'elle soit torrent ou bien ruisseau, qu'elle soit déluge ou renouveau. Qu'elle chante, nous enchante, tombe des nues, qu'elle transpire, même pire, qu'elle s'insinue, qu'elle pourrisse, qu'elle nourrisse les craquelures, comme la rose, qu'elle se pose sur la verdure, qu'elle irrigue la garrigue, c'est là son taf, qu'elle abreuve ceux qui veulent jusqu'à plus soif. Écoutez la chanson de l'eau, quand elle nous vient de tout là-haut. La chanson de l'eau, la chanson de l'eau, qu'elle soit de larmes et de sanglots, qu'elle soit torrent ou bien ruisseau, qu'elle soit déluge ou renouveau. Sur son fil ou défile tous les bateaux, qu'elle transporte même morte les gros cargos, qu'elle poursuive toujours vive, c'est son destin, qu'elle se sauve de ma paume jusqu'à demain. Qu'elle irrigue la garrigue, c'est là son taf, qu'elle abreuve ceux qui veulent jusqu'à plus soif. Écoutez la chanson de l'eau, quand elle nous vient de tout là-haut. La chanson de l'eau, la chanson, qu'elle soit de larmes et de sanglots, qu'elle soit torrent ou bien ruisseau, qu'elle soit déluge ou renouveau.
Je suis la prêle. Je suis la relique d'un temps archaïque. J'ai vu l'infini potentiel du monde originel. Ancêtre, j'ai assisté au déploiement d'une multiplicité de formes d'être. Mon fossile de squelette reflète vos multiples facettes. La sagesse immémoriale de ma boussole minérale vous aide à vous orienter dans l'immensité des possibilités. Mes verticilles de sinis oscillent dans toutes les directions comme une invitation à choisir votre propre sillon. Ossature de verre, je consolide votre lumière, et mes rameaux, en faisceau, structurent vos os. Sans âge, je gaine votre intégrité pour que vous osiez vous engager. Chaque instant contient l'éternité, votre choix est gage de liberté. Ce texte, issu du tarot des plantes sauvages, initiation végétale pour s'éveiller à soi, écrit par Marine Lafont et Sandrine de Bormann, met en avant la fabuleuse capacité de la prêle des champs à fixer la silice et les sels minéraux du sol, ce qui explique, d'ailleurs, sa prédilection pour les sols sablonneux. Les cendres de prêle peuvent en contenir entre 30 et 70% selon les espèces. Cette propriété a depuis fort longtemps été identifiée, comme en témoigne Olivier de Serres, le père de l'agronomie française, en 1600, dans son ouvrage « Théâtre d'agriculture et ménage des champs ». Aucun homme, ceste herbe, asprella, pour sa grande aspreté et rudesse du manier, dont les ouvriers imagés, peignés et autres faisant choses délicates, se servent pour polir leur ouvrage l'enfrottant. Ainsi, en lutherie, on utilise la prêle d'hiver, et qui cet homme yémal, pour polir le bois. En cuisine, on les fait sécher pour ensuite récurer de façon très efficace les casseroles. En herboristerie, Elle s'utilise en usage intérieur comme diurétique ou reminéralisant ou comme cicatrisant et nettoyant des plaies en usage externe. La silice d'origine organique est très efficace contre le rachitisme, qu'il soit animal ou humain, car il recalcifie beaucoup plus efficacement que le calcium, par exemple. Pour en parler plus longuement, laissons la parole à Christelle dans sa chronique sur les prêles et la silice.
Notre cher ami la prêle. La prêle est une des sources les plus riches du règne végétal en silice. C'est d'ailleurs une plante connue comme une super herbe. C'est le collagène, la substance qui donne à la peau son élasticité, qui contient de la silice et plus exactement du silicium. La prêle est très riche en silicium organique sous forme d'acide silicique, ce qui en fait une plante reminéralisante extraordinaire. Le silicium est un élément présent dans la croûte terrestre, mais aussi dans notre organisme. C'est un oligo-élément présent chez la quasi-totalité des êtres vivants. Chez l'être humain, il est présent dans les principaux tissus de soutien de l'organisme, les muscles, les os, le cartilage. Le silicium favorise la souplesse des organes, la mobilité et la tonicité des veines et des artères. Avec l'âge, malheureusement, on observe une baisse de densité osseuse et une baisse de concentration de silicium. La silice est un chélateur, c'est-à-dire qu'elle empêche la toxicité des métaux lourds. La distinction entre silice et silicium est que la silice est un composé constitué d'atomes de silicium et d'oxygène, tandis que le silicium est un élément chimique avec le symbole Si. Le silicium est le deuxième élément le plus abondant sur la Terre après l'oxygène. Pourquoi la prêle est très bénéfique pour nous ? Après avoir purifié correctement l'ensemble de l'organisme, ou certains organes en particulier, comme le foie par exemple, une reminéralisation profonde est souhaitable afin de renforcer les apports essentiels en minéraux ou en oligo-éléments. Pour une reminéralisation aussi douce qu'efficace, la prêle est une plante exceptionnelle, puisqu'elle contient des concentrations en minéraux et oligo-éléments étonnantes. La prêle est aussi utilisée pour soulager les œdèmes, l'arthrose ou l'ostéoporose. La prêle est enfin un antioxydant efficace. Elle est recommandée pour renforcer les ongles et les cheveux cassants, maintenir la beauté de la peau également. Depuis toujours, la prêle est aussi reconnue pour favoriser l'élimination naturelle de l'eau. Elle est donc recherchée pour évacuer les excès d'eau dans l'organisme, ainsi que pour atténuer les méfaits de l'acidité dans le corps, et donc favoriser l'équilibre acido-basique. Par son action éliminatoire, elle est aussi intéressante sur le système urinaire. En résumé, les bienfaits du silicium et donc de la prêle sont de limiter l'avancée de l'arthrose, d'aider à réparer les entorses, de réduire les cicatrices boursouflées, infamées, même anciennes, de favoriser la reconstruction cellulaire en cas de plaie, d'ulcères variqueux, d'escarres. Donc là, on pourra utiliser du silicium, mais en mettant autour et pas dessus, pour accélérer le renouvellement cellulaire. Elle peut également aider à préparer l'organisme en cas d'intervention chirurgicale. Ce qui est bien, c'est de faire une cure de 3 mois avant l'intervention. Et puis sur la peau, elle aide à réduire les rides. On peut l'appliquer avant de mettre sa crème. Et elle a une bonne action également sur les vergetures. Alors vraiment, qu'attendons-nous pour profiter de tous ces bienfaits et utiliser la prêle pour prendre soin de notre santé? Portez-vous bien. À bientôt, c'était Christelle.
Pas de médicaments, maman, pas de médicaments. Pas de médicaments, maman, pas de médicaments. Celui qui est en gélule, c'est des yeux de libellule. Celui qui est en sirop, c'est de la bave de crapaud. Pas de médicaments, maman, pas de médicaments. Pas de médicaments, maman, pas de médicaments. Celui qui est dans des ampoules, c'est de la crotte de nez de poule. C'est dans les suppositoires, c'est des pipis de cafard. Pas de médicaments, maman, pas de médicaments. Pas de médicaments, maman, pas de médicaments. Si j'en prends et que j'éclate, si je deviens écarlate, avec des pois jaunes et verts, tu ne sauras plus quoi faire. Pas de médicaments, maman, pas de médicaments. Pas de médicaments, maman, pas de médicaments. Tu sais, on pourrait peut-être les jeter par la fenêtre, ou pour voir s'ils font du bien, les essayer sur le chien. Pas de médicaments, maman, pas de médicaments. Pas de médicaments, maman, pas de médicaments. Il vaut mieux que tu les gardes et puis touche-moi. Regarde, j'ai plus de fièvre du tout, tu le sauras le prochain coup. Pas de médicaments, maman, pas de médicaments. 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 Ouille !
La présence forte de silice dans la plante ne facilite pas son usage culinaire, car elle crisse un peu entre les dents. Peu odorante et sans saveur particulière, elle est peu plébiscitée dans les recettes de cuisine. Seules les jeunes pousses se consomment comme les asperges ou sont tout simplement incorporées dans des bouillons, comme au Japon. En teinturerie, la prêle colore les tissus en jaune. Son usage agricole présente de multiples intérêts. Incorporée à la ration des animaux, par exemple, elle soigne le rachitisme et les hémorragies. En agriculture biologique et en biodynamie, on en confectionne des décoctions ou des macérations pour protéger les cultures des attaques fongiques. Sa richesse en silice favorise les défenses naturelles des végétaux contre les maladies, la sécheresse ou la pollution aux métaux. Comme la consoude, elle contribue à une meilleure activation du compost. Sous forme de purin, elle assure en complément avec l'ortie la fertilisation en éléments minéraux. Pour évoquer son usage dans la vigne, retrouvons Caroline dans la chronique « Le bonheur est dans les simples ».
Aujourd'hui, pour notre émission, nous allons nous intéresser à la prêle. La prêle est considérée comme un véritable fossile vivant, car elle est présente sur Terre depuis plus de 300 millions d'années, alors même que les plantes à fleurs n'existaient pas encore. La prêle ne fait donc pas de fleurs, mais elle fait partie des plantes qui se reproduisent grâce à des spores ou des rhizomes, tout comme la fougère par exemple. Elle appartient à la famille des équicétacées, une famille qui ne contient que des prêles, car il en existe en effet plusieurs variétés. La variété que nous vous présentons cette fois-ci s'appelle l'Equisetum arvense, ou prêle des champs, surnommée aussi queue de cheval, car son origine équi fait tout simplement penser à équidée. Dans cette famille, on peut aussi rencontrer d'autres variétés de prêles, telles que la prêle d'hiver, la prêle des marais, la prêle des rivières, la prêle des prés ou encore la prêle des bois. Mais attention, toutes les prêles ne se valent pas et certaines peuvent même être toxiques. C'est pourquoi il est important de bien savoir reconnaître la prêle des champs. Par exemple, notez que la prêle des marais est toxique pour les animaux, alors que la prêle des champs est plutôt intéressante à introduire dans l'alimentation animale. C'est elle aussi qui est utilisée pour l'homme en phytothérapie. Pour cela, il faut utiliser uniquement les tiges de la prêle des champs, qui ne servent pas à la reproduction. Ce sont ces tiges dites stériles. Celles-ci sont de couleur verte. Elles gardent leur fonction chlorophyllienne, contrairement aux tiges reproductrices, et elles seront récoltées pendant la période estivale. La prêle des champs adore l'humidité. Et sachez que vous aurez plaisir à en trouver facilement, pas très loin d'Angers, sur la magnifique île de Béhuard. Grâce à ses rhizomes, la prêle des champs pompe de grandes quantités d'eau en allant en profondeur jusque parfois dans les nappes phréatiques. Et elle représente alors un excellent indicateur quant à la présence d'eau dans les sols. Autrefois très populaire, la prêle des champs est aujourd'hui utilisée de manière plus anecdotique en phytothérapie, car contrairement à d'autres plantes, très peu d'études cliniques ont été faites à son sujet afin de prouver son efficacité. Mais depuis ses origines, la prêle des champs, comme le cassis ou le pissenlit, est proposée comme diurétique pour favoriser l'élimination d'eau par les reins ou encore la perte de poids lors de régimes amincissants. Extrêmement riche en minéraux, notamment en silice, elle est reconstructive et restructurante car elle stimule la régénération de collagène dans les os, les tendons, et favorise ainsi le renouvellement des tissus conjonctifs qui soutiennent nos organes. De par cette action reminéralisante, la prêle des champs joue donc un rôle dans la fixation du calcium dans nos os. Elle peut également être proposée pour des traitements tels que la goutte, les problèmes biliaires, l'arthrose et les rhumatismes, les œdèmes post-traumatiques survenant après un choc, des fractures, l'ostéoporose et pour favoriser également la cicatrisation des plaies ou encore renforcer nos ongles et nos cheveux. En plus de ces actions sur l'être humain, ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est de vous faire part de ces actions tout aussi vertueuses au potager et à la vigne. Et oui, en tant que sommelière conseil en vin spécialisée en biodynamie, je m'intéresse tout particulièrement aux bienfaits des plantes sur la vigne et donc sur les raisins et bien sûr sur le vin. En agriculture biodynamique, la prêle des champs utilisée en décoction joue un rôle efficace en prévention des maladies cryptogamiques telles que mildiou, oïdium, rouille, qui se développent sur les végétaux à la suite d'excès d'humidité durant la période hivernale ou printanière. Ainsi, par exemple, pendant l'hiver, la pulvérisation de la prêle des champs est employée par les producteurs de pommes de terre et de céréales avant de mettre leur culture en place et limiter les pressions fongiques de manière préventive. La décoction de prêle des champs, très riche en silice organique, est aussi bien employée en arboriculture qu'en viticulture, à l'automne après la chute des feuilles, puis en fin d'hiver après la taille, mais aussi et surtout au printemps sur les jeunes pousses pour les renforcer et les rendre ainsi moins sensibles aux maladies cryptogamiques et champignons d'hiver. Prenons le mildiou par exemple. La pulvérisation de prêle des champs aura pour but de calmer l'activité des champignons en retardant la maturation des œufs d'hiver et freiner alors en amont son développement. L'action de la prêle des champs sur la vigne est bénéfique si utilisée en préventif, car une fois que le mildiou s'est développé et que les spores se sont disséminées, c'est malheureusement souvent déjà trop tard. Et comme le dit le vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. C'était Claudie sur Radio G 101.5 FM. Christelle et moi et toute l'équipe du Planty vous donnons rendez-vous pour découvrir une nouvelle plante, la fougère.
FM.
Je crois que c'est ok de céder à une certaine forme de nihilisme, de se dire que de toute façon,